Apocalypse chapitre 2 verset 8. Voilà ce qu'on peut lire dans cette Apocalypse, cette lettre à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Ce sont des choses que l'on connaît, on les a lues peut-être des centaines de fois, mais c'est bien de s'arrêter quelques instants, de réaliser que ce message qui est transmis à l'église de Smyrne, c'est aussi un message que le Saint-Esprit transmet à l'église d'Oche, à l'église d'aujourd'hui, l'église que nous représentons. Et dans les lettres à Éphèse, il y avait des choses très intéressantes, mais dans cette lettre-là, qui vous avez remarqué, elle est très courte, hein, quelques versets, mais dans ces versets, il y a une profondeur, et il y a des choses que l'on peut faire remarquer qui vont encore nous faire du bien, je le crois, ce matin. Déjà, cette réalité que dans cette lettre, il n'y a pas de reproche. Vous savez qu'il n'y a que deux lettres dans l'Apocalypse qui n'ont pas de reproche. Toutes les autres, elles ont un reproche. Certaines plus que d'autres, d'ailleurs. Mais celle-là, l'église de Smyrne, n'a pas reçu de reproche. C'est laquelle l'autre qui n'a pas reçu de reproche? Philadelphie. Alors, je ne sais pas si dans les semaines à venir, on fera toutes les lettres. Ça, c'est le Seigneur qui conduit tout ça. Mais j'avais à cœur quand même de continuer dans cette thématique, sachant que là, ce qui est central dans cette lettre, ce n'est pas l'amour qui a été perdu, c'est la souffrance. Et déjà là, c'est tout un enseignement. Jésus s'adresse à une église qui est dans la souffrance. Ça veut dire qu'il peut y avoir parfois dans nos vies de la souffrance. Et déjà là, c'est quelque chose sur lequel il faut insister parce que parfois on entend des évangiles qui nous disent que si on est chrétien, on ne souffre pas. Si on est malade, on est obligé d'être guéri. Et si on n'est pas guéri, c'est qu'on n'a pas la foi. Mais ça, ce n'est pas le message de Jésus-Christ à l'Église, puisque Jésus dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ça, c'est le verset central. Mais si Jésus dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, ça veut dire qu'il accepte que l'Église souffre. Si ce n'était pas sa volonté, il ne dirait pas ça, vous êtes d'accord? On sait d'ailleurs que ce n'est pas juste ce verset qui le dit dans la Bible, mais il y a beaucoup de passages. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas que Dieu peut guérir, que Dieu peut secourir, que Dieu peut faire des miracles, mais Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est à nous de nous soumettre à sa volonté. Et tant qu'il ne nous dit pas le contraire, on prie pour le miracle, on prie pour la guérison, on s'attend au Seigneur, mais si les choses persistent, eh bien on croit qu'il va nous permettre de ne pas tomber dans la crainte malgré la souffrance. Ne crains pas. D'ailleurs, littéralement, c'est ne crains rien de tout ce que tu vas souffrir. Ça veut dire que la souffrance va être là, mais elle ne va pas nous atteindre jusqu'au moment où on abandonne le Seigneur. Et ça, c'est une grâce. Le Seigneur désire une église sereine dans la souffrance. Au début, je pensais, au niveau du titre, je me suis dit l'église de la souffrance. Mais je me suis dit non, c'est pas assez précis. L'église sereine dans la souffrance. C'est ça le message du Seigneur. C'est qu'il y a la souffrance, oui, et on est tous d'accord, il n'y a pas besoin de faire de grandes prédications. On l'a tous vécu, ou on le vit peut-être en ce moment. Mais il y a la paix du Seigneur dans la souffrance. Il y a la grâce du Seigneur qui est là, qui nous tient. Vous savez, ce n'est pas un message à la mode que je suis en train de partager là. D'ailleurs, souvent les messages de la parole de Dieu ne sont pas forcément à la mode de notre monde. Aujourd'hui, on nous parle de comment atteindre le bonheur, comment grandir en tant qu'individu, l'épanouissement personnel. Mais c'est pas ça dont il est question dans cette lettre. C'est tout le contraire d'ailleurs. Je trouve intéressant les paroles d'un philosophe contemporain. Vous savez, parfois, il y en a qui réfléchissent bien. Là, il disait, la notion moderne de bonheur est tellement élevée face à la vie réelle, qu'elle pousse systématiquement les gens dans le malheur. On a une telle entente par rapport au bonheur, et il dit « l'individu moderne veut le paradis sur terre tout de suite et maintenant ». Et il termine en disant « cela ne fonctionne pas comme ça, le paradis est toujours dans l'au-delà, jamais ici ». Je ne sais pas s'il est chrétien ce philosophe, en tout cas il a vraiment bien percuté sur ce qui se passe. Il y a une attente du bonheur, on veut que les choses se passent tout de suite. Et parfois dans l'église c'est un petit peu la même chose. On n'est pas prêt à patienter, à persévérer des années, on veut que tout se passe tout de suite. On prie, le Seigneur nous guérit, on prie, les choses bougent. Parfois, ça demande du temps. Et Jésus est en train d'encourager, aucun reproche à cette église qui est dans la souffrance. Franchement, si la souffrance était un péché, Jésus il aurait pu s'y prendre à l'église de Smyrne de manière différente. Mais il ne fait aucun reproche. Au contraire, il lui donne des conseils. Il encourage. Et là, les conseils qui sont là pour nous apprendre à être serein dans la souffrance. Comment est-ce qu'on peut l'être? En regardant au ressuscité. En regardant à celui qui sait. En regardant à ce qu'il promet. Voici ce que dit le premier et le dernier. Juste cette pensée de réaliser que Jésus est le premier et le dernier. Et mettez-le avec la souffrance au milieu. Jésus est avant que ma souffrance arrive. Jésus est après que ma souffrance arrive. Jésus est toujours le même. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus est celui qui me permet de tenir bon parce qu'il est présent. Qu'il y ait la souffrance ou pas la souffrance, il est là. Rien ne change dans la fidélité de mon Seigneur. C'est pour ça que, en regardant au ressuscité, je peux tenir bon malgré tout, malgré les difficultés, parce que lui, il reste parfaitement le même. Et même si ma foi parfois peut vaciller à cause des circonstances, à cause des difficultés, le Seigneur, il se tient à mes côtés. Le Seigneur est mon consolateur. Le Seigneur est celui qui est là avec moi et qui me permet de rester debout par sa grâce. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Vous savez que c'est quelque chose, je vais dire presque une lapalissade, mais avant d'être le ressuscité, il faut mourir. C'est bête, hein? Mais quand on y réfléchit, c'est profond. Parce que pour regarder au ressuscité et être tenu dans la souffrance, tenu dans la paix malgré la souffrance plutôt, il faut réaliser que Jésus a donné sa vie. S'il y en a bien un qui peut nous comprendre, c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. S'il y en a bien un qui peut parler à une église qui souffre, c'est le ressuscité. Parce qu'il a connu, avant d'être le ressuscité, il était l'homme de douleur. La Bible dit « homme de douleur ». Habitué à la souffrance. Quoi ? Jésus, l'étiquette qu'on met sur lui, prophétique, habitué à la souffrance. Non, nous on veut un, vous savez, les disciples c'était ça, nous on veut un roi, nous on veut quelqu'un qui est un conquérant, qui va venir mettre la paix partout et nous délivrer des Romains, c'est ça qu'on veut. On veut tout de suite, justement. Et Jésus dit, oui, ça arrivera un jour. Mais avant ça, vous savez, avant que le roi ressuscité vienne sur la terre, il va falloir une grande tribulation. C'est ce que la Bible appelle la grande tribulation. Smyrne, ils en ont vécu une quand même sympa, hein, tribulation. Quelque chose de costaud, mais ça n'a rien à voir comparé à celle qui va venir sur le monde. La Bible dit qu'il y aura des choses tellement compliquées, des grêles. On a tous vécu des moments où on a vu des grêlons costauds, et là il y aura des grêlons énormes. Il y aura des tremblements de terre tels qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Vous lisez l'Apocalypse, vous comprendrez un petit peu ce qui va se passer. Mais bien sûr, quand on est croyant, quand on regarde avec foi au ressuscité, on sait qu'on sera libéré de tout cela. On sait qu'on sera exempté de tout cela. La colère de Dieu, elle vient sur le méchant, sur celui qui ne croit pas. Mais sur celui qui croit, sur celui qui met sa confiance en Jésus, il est libéré de la colère. Que son nom soit béni. Ce matin, je voudrais vous dire juste ce conseil. Faites la paix avec la souffrance. Acceptez qu'il y ait des temps de souffrance. Alors attention, si on fait volontairement des choses où on se fait mal, c'est notre faute, hein. C'est pas Dieu qui l'a permis, etc. Mais Je parle de ces souffrances qui sont dans le plan de Dieu pour que nous permettent de grandir. Parfois, voilà, on peut marcher dans la rue et puis se faire percuter par une voiture et là, perdre l'usage des jambes pendant quelque temps. Mais c'est la souffrance. Et Dieu peut permettre que la guérison aille vite ou qu'elle aille normalement ou que même elle aille lentement pour X raisons. Je me souviens, en parlant de ça, je me souviens d'une circonstance particulière. C'est quelqu'un, une dame que je suis allé visiter un jour, qui était en dépression, une chrétienne de l'église qui était en dépression, qui était donc dans une clinique psychiatrique. Et elle disait, mais Seigneur, pourquoi ? Elle se culpabilisait, Seigneur, je suis trop faible, je n'ai pas un bon témoignage. Elle avait ce langage vraiment négatif, négatif. C'est vrai que ce n'est pas évident hein, quand on vit ce genre de choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en allant visiter cette sœur, il y avait une dame juste à côté. Et en parlant du Seigneur avec elle, la dame juste à côté, on voyait qu'elle avait une oreille qui traînait, qui était très attentive en fait. Et du coup, on l'a inclue dans la conversation. On l'a proposé même de prier pour elle, de lui donner une Bible, etc. Et à la fin, donc cette dame, elle s'est absentée et la chrétienne a dit « Mais c'est merveilleux ce que le Seigneur est capable de faire. » Et je lui ai dit « Mais regardez, si vous n'aviez pas été en dépression et que vous n'aviez pas été dans cette chambre, eh bien, elle n'aurait peut-être jamais entendu parler du Seigneur. » La dame, elle avait eu dans la famille, je crois, un oncle ou quelqu'un de la famille, un grand-père qui était pasteur. Et quand on a commencé à parler de Dieu, ça a rappelé plein de choses dans son cœur. Elle s'est intéressée aux choses de Dieu tout à nouveau. Le Seigneur l'attendait là. Là où on ne l'attendait pas nous. On se disait, bon, on va visiter quelqu'un qui est en dépression. Parfois, vous savez, on pointe facilement un doigt en disant, si elle est en dépression, c'est qu'elle n'a pas la foi. Le Seigneur, dans la souffrance, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. Sois dans la paix. Garde cette sérénité. Savez-vous que le mot Smyrne vient du mot qui signifie myrrhe en grec? La myrrhe. Et il y a deux moments dans la vie de Jésus qui ont été marqués avec la myrrhe. Est-ce que vous vous en rappelez? Le premier, à la naissance. Les mages plutôt. C'est pas tout à fait la naissance. D'ailleurs, quelques mois après que Jésus soit né, ces hommes de l'Orient sont arrivés, ils ont apporté dans leur bagage des cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Et on sait que ça a une valeur symbolique par rapport aux fonctions, au ministère du Seigneur Jésus qui cumule les trois fonctions ointes, le roi, le sacrificateur et le prophète. Chacune est en train de déterminer cela. Dès qu'il est né, Jésus était marqué du fait qu'il allait être un sacrificateur qui allait devoir offrir sa vie en sacrifice. C'est pas n'importe quel sacrificateur, c'est celui qui offre lui-même sa propre vie pour le sacrifice parfait que Dieu attendait. Et la deuxième fois où il y a eu la myrrhe dans la vie de Jésus, c'est quand il est mort, justement. Il est descendu de la croix et il est dit que Nicodème a donné une grande quantité de myrrhe pour embaumer le corps de Jésus. La vie de Jésus a été marquée par la myrrhe en rappelant toujours qu'il est cet homme de douleur. Et si nous pouvons être bénis nous-mêmes dans la douleur, c'est parce que Jésus a été l'homme de douleur. Si nous pouvons être bénis dans la souffrance, c'est parce que Jésus a été celui qui a été habitué à la souffrance, qui n'a pas fait de sa vie quelque chose comme s'il y tenait absolument, mais il a compris qu'il fallait qu'il l'offre pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il s'est montré à ses disciples ressuscités? Est-ce que vous savez? La parole qu'il a dite. La paix soit avec vous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré ses mains. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Ça veut dire que comment Dieu est capable de nous donner la paix? C'est parce qu'il y a le sacrifice. Les mains, elles étaient comment? Elles étaient percées. Hein, et les disciples, en voyant ça, ils ont compris qui c'était vraiment Jésus. Et je peux vous donner la paix parce que mes mains sont percées. Ce matin, le Seigneur veut nous donner sa paix et il veut nous montrer ses mains. Ce que nous avons fait en prenant ce repas, c'est de nous souvenir. Et à l'occasion de ce repas, j'espère que vous n'êtes pas sortis de ce repas sans la paix de Dieu, parce que ça serait dommage. Ça serait passé à côté de ce que le Seigneur voudrait nous donner, nous communiquer. Mais pour être en paix malgré la souffrance, il suffit de regarder au ressuscité. Il suffit de se souvenir de ce que le Seigneur a fait et de croire qu'il a été cet homme de douleur et qui est avec nous dans nos douleurs aussi. Regardez le verset 9 de ce chapitre. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Pour être serein dans la souffrance, il faut regarder à ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur ? En fait, il y a deux voix qui se font entendre dans ce passage. Je ne sais pas si vous les discernez. Mais il y a la voix de ceux qui se disent juifs, et puis il y a la voix de Jésus, ce que Jésus dit lui. Et on voit que c'est vraiment deux mondes opposés. Sûrement qu'une des souffrances de l'église de Smyrne, c'était qu'il y avait des calomnies, il y avait des choses mauvaises qui étaient dites envers cette église, de la part de certaines personnes dans cette ville. Peut-être par jalousie, par méchanceté, on ne sait pas les motifs, on ne sait pas exactement ce qui se passait, mais on sait qu'il y a eu une grande persécution envers l'église de Smyrne, et que ça a passé pour certains moments par les paroles. Est-ce que vous savez que les paroles peuvent faire beaucoup de mal ? On l'a entendu en plus dans le texte qui a été apporté, on n'est pas appelé à donner de mauvaises paroles, mais à être bon. Et pour pouvoir vivre avec cette réalité de la bonté de Dieu en nous, il faut accepter de faire le tri dans nos pensées, le tri dans nos paroles. Jésus est en train de dire de certains habitants de Smyrne, ils sont en train de se dire juifs, mais ils ne le sont pas. Vous savez, se dire quelque chose, c'est bien, mais encore faut-il le prouver. Dire que l'on est juif, alors c'est spirituellement hein, dont il est question là, ceux qui sont du peuple de Dieu, ils disent qu'ils le sont, mais en même temps, ils font de la calomnie. Et Jésus est en train de dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Si je suis membre du peuple de Dieu, si dans mon cœur le Dieu bon et compatissant et plein d'amour est là, ce n'est pas possible qu'il sorte de la calomnie. Et même il va loin parce qu'il dit, ils sont une synagogue de Satan. Aujourd'hui, on dirait, c'est une église de Satan. Je ne sais pas, c'est une image qui fait trembler, hein. Vous savez que c'est une réalité, par contre, qu'il y a des églises de Satan. Il y a des gens qui se rassemblent, qui font des espèces de cultes, mais pour Satan. Je connais même une ville dans laquelle il y avait des gens connus pour faire des jeûnes et prières à Satan pour que les églises soient détruites, pour que les couples soient rompus, pour qu'il y ait toutes sortes de choses mauvaises qui se passent en contre les chrétiens. Des gens sont capables de jeûner, de prier, de pleurer, Satan, pour que ces choses arrivent. Alors, il ne faut pas tomber dans la dépression à cause de ça, hein, mais il faut se dire, mais moi, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que moi, je suis impassible ? Ou est-ce que moi, je dis, moi, je crois dans le Dieu vivant et vrai ? Je crois que celui qui a remporté la victoire sur l'adversaire, c'est mon Seigneur, et je veux m'attacher à lui. Et moi, je veux jeûner, je veux prier, je veux bénir. Et je sais que la bénédiction du Seigneur, elle efface toutes les malédictions de l'ennemi. Vous savez que l'ennemi peut dire tout ce qu'il veut, les gens qui le servent peuvent dire tout ce qu'il veut. S'il y a des hommes et des femmes qui croient, ils n'ont aucun pouvoir. Parce que la puissance de notre Seigneur est plus grande. Leurs paroles sont des calomnies. Littéralement, c'est des blasphèmes. Des paroles fausses qui peuvent blesser. Les paroles font parfois du mal autant que des coups de couteau. Hein. Sauf que c'est invisible, on ne le voit pas. Mais combien c'est important de faire attention. Telles sont les paroles, tels sont les cœurs. Un cœur qui est bon ne peut pas avoir de mauvaises paroles. C'est de l'abondance du cœur, Jésus a dit, que la bouche parle. Que nos bouches soient remplies de grâce. Que nos bouches soient remplies de paroles qui bénissent les gens. Que nos bouches soient remplies de prières qui amène la grâce sur les personnes qui nous entourent. Mais à ceux qui mentent, Jésus a dit à un moment donné, vous avez pour père le diable. Parce que le diable est le père du mensonge. À ceux qui calomnient, il va dire, vous êtes une église de Satan. Jésus, il y va pas dans la dentelle, hein, parfois, parce qu'il dénonce les œuvres de l'adversaire. Et il nous donne un moyen simple de discerner si nous sommes sur le bon chemin. Est-ce que de ma bouche sortent de la vérité ? Des paroles de grâce, Alors je suis avec mon Seigneur et je veux continuer de marcher sur ce chemin. Si ce n'était pas le cas, mais je veux demander pardon. Seigneur, change ma vie, transforme-moi. Je veux venir dans ta présence. Je réfléchissais à cela, mais je crois que quelqu'un même en a parlé dans sa prière. Jésus à la croix ne s'est pas seulement chargé de nos péchés, mais il a accepté aussi les insultes. Il a accepté les calomnies. Il a accepté qu'on dise toutes sortes de choses mauvaises. Les gens qui se moquaient en le pointant du doigt à la croix. Mais pourquoi il a laissé faire? Il n'a pas dit un mot, nous dit Isaïe 53, face à l'oppression qui était là. Parce qu'il voulait nous montrer combien il nous aimait. Il voulait nous montrer combien on était précieux pour lui. Et puis il va dire, Jésus, à l'église de Smyrne, après la voix fausse, mensongère de ces faux juifs, Jésus va dire, je connais ta tribulation. Jésus connaît notre tribulation. Ça vous fait pas plaisir déjà, ça? Juste ça? Seigneur, tu connais. Tu sais ce que je traverse. Les gens ne peuvent peut-être pas bien comprendre ce que je vis. Mais toi, tu connais parfaitement ma tribulation. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et si on arrêtait là le verset, on se mettrait tous à pleurer. Mais il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'était pas encore allé à la croix, mais déjà il avait vaincu le monde. Il savait que c'était ce qu'il allait faire. Et il savait ce que ça allait nous donner comme victoire dans nos propres vies. Ce n'est pas la tribulation qui doit vaincre en nous, c'est nous qui devons vaincre la tribulation en la traversant et en gardant la foi malgré tout. Regardez ce texte dans Matthieu 13, ça m'est venu tout à l'heure. Je ne l'ai pas marqué là, donc il faut que j'aille le lire. Matthieu 13, je crois que c'est le verset 21. Vous savez, c'est la parabole du semeur. À un moment donné, Jésus va expliquer cette parabole aux disciples. Et il va dire ceci, au verset 20 même. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Dès que vient une tribulation, cette personne qui n'a pas de racines trouve une occasion de chute. Plaise au Seigneur que nous ayons les racines et que même s'il y a une tribulation, nous nous souvenons que Jésus connaît la tribulation et que grâce à ces racines que nous avons développées par la foi, nous sommes solidement ancrés, on l'a chanté, ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Quand notre foi est ancrée dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, malgré la tribulation, nous pouvons tenir bon. Et nous ne sommes pas dans des occasions de chute, prêts à tomber dès qu'il y a un coup de vent qui passe. Non, non, on reste solide et ferme et serein. Malgré la souffrance, je connais ta tribulation. Est-ce que vous avez réalisé que Jésus est en train d'expliquer de manière précise ce que va subir l'église de Smyrne? Il dit « je connais ta tribulation », mais ensuite il dit « comment il la connaît ?» Ben, en fait, Jésus explique le quand, le comment, le pourquoi et le combien de temps. C'est assez précis quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un enseignement à nous dire, quand Jésus dit « je connais ta tribulation », il est celui qui veut nous guider. Quand on est dans le temps de souffrance, on a besoin de paroles qui nous tiennent, qui nous permettent de rester fidèles, de rester debout. Et Jésus est prêt à nous les donner. C'est exactement ce qu'il fait à Smyrne. Il lui dit « le camp, tu es sur le point de souffrir. Tu vas souffrir très bientôt. » Il lui dit « le comment, certains vont être envoyés en prison. » par le diable. Le pourquoi, afin que vous soyez éprouvés. Combien de temps? 10 jours. C'est précis quand même cette histoire. Et ça fait du bien quand le Seigneur nous donne des détails. Parfois, vous savez, le Seigneur nous dit, je vais te bénir, je vais te guérir, je vais te délivrer. Merveilleux. Mais parfois, il dit, dans la souffrance, je vais te bénir, je vais t'utiliser. Exactement comme cette femme qui était en dépression, dont le Seigneur s'est servi d'elle. Pour qu'une autre dame puisse entendre parler du Seigneur. Le plus important, c'est que Jésus connaît notre tribulation. Quelqu'un a dit, quand Dieu permet à son enfant de passer par la fournaise, il garde les yeux sur l'horloge et dans sa main, il a le thermostat. Je trouvais que c'était très intéressant. Regardons à celui qui sait, à celui qui connaît Quand Jésus nous parle, quand Jésus nous donne des paroles comme ça, c'est pour que nous soyons dans la paix, dans la souffrance. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. On se fait souvent avoir par la vision humaine, mais Jésus nous rappelle que lui, il a une vision spirituelle. La vision humaine, ben les gens peuvent dire, mais pour toi, tout est perdu, c'est fini. Tu n'as aucun espoir. Mais ne laissons pas ces paroles nous accabler. Laissons le Seigneur nous parler dans ces moments-là. Qu'est-ce que toi, tu dis? Seigneur, tu entends ce qu'ils disent? Tu entends, il y en a qui disent des calomnies ou il y en a qui me disent des vérités mais qui font mal. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de ma situation? Les gens disent que tu es pauvre, mais moi je dis que tu es riche. Amen. C'est spirituel encore une fois. Mais il y a aussi l'aspect, vous savez que la persécution à Smyrne, ça s'est passé aussi par le fait que les chrétiens ont été pillés de leurs biens. Et ils se sont retrouvés, la pauvreté c'est un mot qui en fait veut dire la mendicité. Ils sont retrouvés comme des mendiants. Ils n'avaient plus rien pour subsister. Ils étaient dans une détresse profonde. Et Jésus leur dit, je connais ta pauvreté. Mais en fait, les gens pensent que tu es pauvre, mais moi je te dis que tu es riche. Dans le ciel, il y en a qui vont nous étonner. Parce qu'on se dira, oh là là, celui-là. Et puis quand on verra dans le ciel le trésor qu'ils ont accumulé, parce qu'ils ont persévéré dans le secret. Combien de fois on fait des choses dans le secret de nos vies et ce sont des trésors que l'on accumule. Il y a les choses que l'on fait de manière visible, mais il faut le faire aussi. Il faut honorer le Seigneur dans les choses visibles. Mais combien Dieu fait attention aux choses invisibles. Quand on est tout seul dans notre chambre, quand on le prie, quand on passe en revue la liste des croyants et qu'on prie pour chacun en particulier, quand on appelle telle ou telle personne, quand on va visiter telle ou telle autre personne, tout ça, ce sont des richesses que l'on est en train d'accumuler. Et dans le ciel, un jour, nous serons récompensés. On ne le fait pas pour la récompense, mais c'est une réalité dont la parole de Dieu nous parle. Comment être serein dans la souffrance en regardant à celui qui connaît tout de nous. J'aime ce verset de 2 Corinthiens 8, 9, je le lis pour vous, qui dit, c'est Paul qui parle de Jésus, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Nous sommes riches en Christ. Amen. C'est une réalité, nous sommes bénis parce que Jésus s'est appauvri. Tout ce que nous avons, et Jésus le rappelle dans cette lettre de Smyrne, tout ce que nous pouvons avoir sur la terre comme grâce et comme bénédiction, c'est parce que lui, il est le premier et il est le dernier. Il a vécu la souffrance, il a vécu les douleurs, il s'est chargé même de nos maladies. C'est quelque chose qui nous dépasse ça. Parce que quand on regarde aujourd'hui, que ce soit la Covid ou toutes les autres maladies qu'il y a, Jésus, à un moment donné, est-ce que ça s'est duré une fraction de seconde, je ne sais pas, mais il s'est chargé de toutes nos maladies. C'est incroyable cette histoire. Mais ça nous rassure, Seigneur, tu sais, tu peux comprendre ce que je passe comme épreuve, parce que tu t'es chargé de tout cela. Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Cette semaine, j'écoutais un chant, ça fait des années que j'ai le CD. Je profite que je suis beaucoup sur les routes pour réécouter des cantiques comme ça, et c'était un chant en anglais. J'ai traduit approximativement les paroles, mais ça disait ceci. Je suis pardonné parce que tu as été abandonné. Je suis accepté parce que tu as été condamné. J'ai la vie de Dieu, ton esprit habite en moi parce que tu es mort et que tu es ressuscité. C'est exactement le message que Jésus est en train de dire à l'église de Smyrne. Ce message-là, c'est que il peut se passer des choses, il peut y avoir la souffrance, des douleurs, mais Jésus a vécu cela, et parce qu'il a vécu cela, il peut nous donner toute la grâce et toute la paix et toutes les choses dont on a besoin pour traverser ces temps de souffrance. Et puis on termine avec ces promesses. Pour pouvoir être serein dans la souffrance, il faut regarder à ce qu'il promet. Qu'est-ce qu'il promet, le Seigneur ? La fin du verset 10, il est dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Il promet la couronne. Vous voulez une couronne ? La plus belle de toutes les couronnes. Mais c'est pas moi qui vous la donne. Tant mieux, parce que moi je vous donnerai une couronne tressée avec des branches. Mais Jésus nous donne une couronne d'or. Vous savez ce qu'on en fera dans le ciel? La couronne d'or. On va la jeter à ses pieds, de reconnaissance. Et on va l'adorer. Mais Jésus promet qu'il y aura une couronne. Promet qu'on sera aussi dans un règne. On régnera avec lui. C'est des choses incroyables. On peut se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire à régner? Ouh là là. Heureusement qu'on va avoir un corps, un cerveau, tout transformé pour pouvoir le faire bien, parce qu'on pourrait se sentir indigne. Mais Dieu promet cela, pourquoi? Pour qu'on ne reste pas fixé sur les choses aujourd'hui. Il y a les douleurs aujourd'hui, il y a les souffrances aujourd'hui. Mais dans le ciel, il n'y aura plus de douleurs, plus de souffrances, plus de larmes. Si nous restons attachés au Seigneur, si nous sommes fidèles jusqu'à la mort, jusqu'à quel point notre foi elle est solide? Est-ce que si on met ma mort en question, ma vie en question plutôt, est-ce que je vais renoncer? Vous savez que Jésus a dit cela, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la retrouvera. Amen. Voilà ce que le Seigneur promet. La couronne de vie, parce qu'on a une foi jusqu'à la mort. Vous savez, c'est très facile de dire, si on me persécute, si on me demande de renier le Christ, je vais dire oui, moi, je ne renierai pas. C'est facile de le dire quand on n'y est pas. Mais il y en a qui l'ont vécu vraiment. J'étais toujours frappé. Et pour moi, c'est un signe que la France, Dieu veut la bénir quand même. De toutes les fois où il y a eu des bûchers en France, des gens qui ont été mis sur le bûcher qui étaient beaucoup plus sains que ceux qui les mettaient en feu. Et qui, pendant ce temps-là, au lieu de maudire, au lieu de dire des mauvaises paroles, ils ont loué le Seigneur. Et les chants se sont perdus dans le crépitement des flammes. Mais la dernière chose qu'ils ont laissée sur la terre, c'est ce témoignage de foi. Ça, c'est des choses qui me montrent que Dieu veut bénir quand même ce pays, parce que il y a le sang des martyrs qui est en France aussi. Et Dieu n'oublie pas cela. Il veut bénir ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Un homme, une fois, a trouvé un cocon de papillon, un papillon de nuit empereur. Vous savez, les jolis papillons assez gros, avec des jolis motifs dessus, leurs ailes. Et donc, il a ramené chez lui pour le regarder sortir de son cocon. Et puis, un jour, il a vu une toute petite ouverture se faire. Et il a vu pendant plusieurs heures le papillon qui était en train de lutter, de tenter de sortir par cette toute petite ouverture. Et on aurait semblé qu'il n'avait pas la force de le faire. Donc à un moment donné, cet homme, plein de compassion pour ce petit papillon, il s'est dit « je vais l'aider, je vais prendre une paire de ciseaux, je vais découper l'ouverture pour que ça puisse être un trou plus grand ». Et donc il a fait ça. Et du coup, le papillon, tout de suite, il a émergé, mais il avait un corps assez gros, il n'était pas encore bien bien transformé, et il avait des ailes toutes ratatinées. Et lui s'est dit, peut-être qu'avec le temps, ça va passer cette histoire. Et il a attendu des heures, des heures, des heures, et au fur et à mesure des heures, il a vu ce papillon. Non seulement il était tout gros et ratatiné au niveau des ailes, mais il était en train de dépérir. Et au bout de quelques temps, il est carrément mort. Au lieu de devenir une créature qui allait pouvoir s'envoler, le papillon, il a traîné sa vie, son corps et ses ailes ratatinées. En fait, il s'est aperçu que le cocon resserré et la lutte pour passer à travers la petite ouverture, c'est la manière que Dieu a prévue pour que le fluide dans le corps du papillon puisse développer tout cela et le transformer en un vrai papillon. Vous savez, parfois on veut aider Dieu avec nos ciseaux. On veut aider Dieu à sortir nos vies de l'épreuve. Mais Dieu, il sait pourquoi il nous laisse dans le cocon. C'est parce qu'on puisse se développer et devenir ces instruments de témoignage qui vont pouvoir honorer son nom. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort, dit le Seigneur. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est pour ça qu'il y a cette promesse, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous savez que la seconde mort, elle est réservée pour les méchants, pour ceux qui refusent Dieu. Et ça sera un temps de souffrance continuelle. L'enfer, c'est quoi si ce n'est rien que d'autre que ça? Un temps de souffrance continuelle, de désespoir, de larmes et de tristesse. Mais je ne suis pas là en train de vous faire peur par rapport à l'enfer. Je ne fais que citer la parole. Mais je suis en train de vous dire non. Nous, on veut choisir la vie. On veut choisir la vie avec le Seigneur. La vie qui est possible que parce que Jésus a donné sa vie. Soyons des vainqueurs dans la souffrance. Dans l'église de Smyrne, il y a eu des vainqueurs malgré le fait qu'ils étaient dans ces temps de souffrance. C'est possible. Et c'est ce que Dieu nous demande de vivre aussi. Alors que nous puissions chercher maintenant, alors que nous prions le Seigneur, chercher auprès de lui cette paix, cette sérénité dont nous avons besoin. Si nous sommes dans la souffrance, regardons au ressuscité. Regardons à celui qui connaît tout. Regardons à celui qui promet tout aussi. Seigneur éternel, nous nous tenons devant toi ce matin. Merci parce que tu es le Dieu qui est avec nous, quels que soient les temps que nous vivons. Tu es le Dieu qui nous a montré un merveilleux exemple. Seigneur, tu nous as montré le chemin par lequel nous devions passer. Tu nous as appelés même à la souffrance, parce que tu as souffert pour nous, en nous laissant cet exemple afin que nous suivions tes traces. Ô Seigneur, donne-nous, oui, d'être sans crainte. Donne-nous d'être, Seigneur, toujours attachés à ta présence. Donne-nous, Seigneur, d'être toujours de ceux qui vivent auprès de toi et qui, Seigneur, malgré les circonstances de leur vie, te font confiance, développent ces racines profondes, cette foi profonde en toi, Seigneur. Te faisons confiance, Seigneur, dans toutes les réalités de nos vies. Tu connais ce que vivent mes frères et mes sœurs. Tu connais ceux pour qui tout va bien et ceux pour qui ils sont en train de vivre des temps de souffrance. Mais tu es le même pour chacun. Et tu veux glorifier ton nom, Seigneur, dans nos vies et au travers de nos vies. Donne-nous, Seigneur, de compter sur toi. Donne-nous de nous attacher à toi de plus en plus profondément. Donne-nous, Seigneur, de te faire confiance par rapport au temps, au timing, Seigneur. Et de ne jamais remettre en question tes plans. De ne jamais te dire pourquoi avec reproche, Seigneur. Mais de toujours nous attendre à toi. Bénis ce matin, Seigneur, celui qui est fatigué, celui qui est lassé. Et rappelle-lui cette parole, que tu es le Dieu qui est avec lui dans la souffrance et qui va l'aider à traverser. Tu purifies, tu épures notre foi comme de l'or pour que nous puissions faire des progrès avec toi, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin encore. À toi la gloire, Seigneur. Amen.